Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance du réveil. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et nous pourrons donner comme titre pour aujourd'hui le prix du réveil. Le prix du réveil est le même que celui des âmes. C'était tout pour Dieu de nous donner son Fils bien-aimé, et cela coûta absolument tout à son Fils Jésus de nous donner le salut. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or. C'est ce que disait l'apôtre Pierre, le plus grand des revivalistes qui a existé. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. La valeur de mon âme n'est pas indiquée sur une étiquette quelconque, soit en euros ou en dollars ou que sais-je. Si vous regardez attentivement votre étiquette, vous verrez qu'elle est marquée hors de prix. Car Jésus a dit qu'une âme valait plus que le monde entier. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 26. Voilà, mes amis, le prix du réveil, et nous devons être prêts à payer ce prix pour la visitation de Dieu, car il est notre exemple d'amour, et Jésus est notre exemple de don de soi, jusqu'à la mort. Les premiers chrétiens faisaient don d'eux-mêmes en vue du réveil. Et nous aussi, nous sommes appelés à cela à 100%. La soif du réveil, elle doit être pour nous plus qu'un sentiment louable. Cela doit être toute notre vie. Le réveil est bien plus qu'une partie du programme, il est tout notre programme. Il nous faudra tout miser. Celui ou celle qui pense que l'on peut avoir le réveil sans en payer le prix, se leurre lui-même. Je suis attristé dans mon esprit pour tous ceux qui disent vouloir le réveil, mais qui ne paye pas le prix. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, nous devons agir avec lui. Nous ne pouvons désigner selon nos propres choix et nos propres humeurs le quand et le comment. Quand il agit, nous avons intérêt à nous plonger dans le fleuve que Dieu fait couler au milieu de nous. Beaucoup disent vouloir le réveil, mais lorsque on en discerne les prémices, ils ne coopèrent ni ne participent. Ils sont totalement absents des réunions de prière, refusant de jeûner et prier. Et lorsque le Seigneur leur envoie des évangélistes et des prédicateurs remplis du Saint-Esprit, ils trouvent des excuses pour rester chez eux derrière leur télévision. Ils sont tellement occupés à faire, soi-disant, des choses pour Dieu, qu'ils passent totalement à côté de sa présence, leur âme se refroidit et bientôt ils n'ont même plus faim de lui. Lorsque le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre dans une rencontre, rien ne m'empêcherait d'y aller. Je veux être là, oui, là où il y a le feu, et j'aime trop la gloire de Dieu pour risquer de la rater. Je n'arrive pas à comprendre comment ceux qui disent vouloir la gloire de Dieu peuvent se contenter de faire une foi, on peut dire une foi acte de présence, serait-ce qu'une foi. Voyez-vous, j'ai tellement soif de Dieu que j'irai à toutes les réunions si je le pouvais, même tous les soirs, lorsque l'Esprit Saint agit. N'attendez donc pas d'avoir mon âge, 88 ans, car il se peut, dans mon cas, que le corps ne peut plus se déplacer comme voudrait le faire notre esprit. Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Il s'est écrié « Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni ». Ça veut dire « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni ». Et beaucoup, beaucoup de réveils ont été le résultat de nuits de prière. L'Église n'oubliera jamais les fruits du sermon prêché par Jonathan Edwards, pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Le Saint-Esprit était répandu avec une telle puissance et la sainteté et la majesté de Dieu tellement révélées que les anciens agrippés aux piliers de l'Église se sont écriés « Seigneur, sauve-nous, car nous glissons jusqu'en enfer. » Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la veille, même à la veille, plusieurs membres de l'Église avaient vraiment passé toute la nuit à intercéder. Ça, ce fut la même chose pour John Livingston, grand revivaliste du XVIIe siècle, qui passait des nuits entières dans la prière. Le 21 juin 1630, après avoir prêché 1h30 dehors et sous la pluie, il voyait la foule s'impatienter. Alors il s'est écrié « Vous est-il possible de vous abriter de la colère de Dieu ?» Puis il continua de parler pendant encore 1 heure, et là, 500 âmes furent sauvées. Gloire à Dieu. Livingston avait lutté dans la prière pour leur salut. La prière sur place, elle brise les forteresses démoniaques. Pourquoi? Parce que les puissances démoniaques qui empêchaient le réveil vont être brisées. L'endroit où nous prions, c'est celui qui est libéré et délivré du contrôle démoniaque. C'est la raison pour laquelle il est tellement important que l'on s'assemble dans la maison de Dieu pour prier. L'Église, c'est-elle la cible de Satan? C'est pourquoi il est bon d'y aller pour prier, c'est-à-dire pour la débarrasser des esprits méchants, de reprendre le terrain pour y avoir le réveil. C'est le temps du réveil. Mais les chrétiens doivent entrer dans la bataille et doivent combattre les démons qui ont jusqu'à présent si bien entravé et même empêcher le réveil. N'oubliez jamais, il n'y a pas de réveil sans repentance. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à payer le prix et à nous repentir de notre tiédeur, de notre indifférence, de notre manque d'amour? Beaucoup ont abandonné leur premier amour. Nous devons sonner l'alarme et appeler à la repentance. Même si ce mot est très impopulaire de nos jours et dans nos églises du monde, si nous prêchons la repentance, eh bien nous serons rejetés et même haïs. Alors, sommes-nous prêts à entendre ce que le Saint-Esprit dit à nos propres cœurs et de nous repentir? Sommes-nous suffisamment sensibles devant Dieu pour reconnaître notre péché et le lui confesser ouvertement? Remettons-nous un peu au Saint-Esprit de nous convaincre de péché. Permettez-lui de le faire. Ou bien, préférons-nous nous abriter derrière le péché d'un frère plus vulnérable en nous disant « Oh, il le fait bien, lui, cela. Pourquoi pas moi ?» Ceux dont Dieu se servira doivent marcher avec circonspection devant Dieu et devant les hommes. Ils doivent posséder leur propre vase en sainteté et en honneur, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. Sommes-nous prêts? Prêts à abandonner nos idoles? Nos passions nous détruiront et elles empêcheront le réveil. Dieu sait que dans chacun de nos cœurs, il existe des idoles cachées et secrètes. Jacob a dû se débarrasser des idoles avant que Dieu puisse le bénir. Il dit aux gens de sa maison, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous nous lèverons, et nous monterons à Bethel, et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu. Il m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi, toujours dans le chemin où j'ai marché. » Genèse chapitre 35, versets 2 et 3. Il nous faut purifier nos vies. Il nous faut nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement afin de pouvoir entrer dans les œuvres préparées par notre Dieu. On pourrait dire que nous sommes les nuages de Dieu. Il veut nous immerger dans l'océan de son amour pour que nous en aspirions l'abondance, puis que nous nous dirigions au-dessus des régions sèches et désertiques pour y faire pleuvoir le réveil. Mais si nos vies sont pleines de pollution, eh bien nos nuages ne répandront que poussière, que vent et que de la boue et non pas de la pluie qui est salutaire. Les idoles qu'entretiennent nos cœurs empêcheront toujours l'Esprit Saint de Dieu de nous utiliser afin que nous soyons en bénédiction. le feu du jugement consumera nos œuvres plus vite que nous ne travaillons. Cela ne gêne pas le diable que nous fassions de grandes choses pour Dieu s'il sait que tandis que nous construisons ces grands ministères, nous lui donnons le droit de nous utiliser pour détruire ces ministères. La plupart de ces ministères ne sont pas toujours détruits par nos ennemis, mais par nous-mêmes. Nous grattons l'allumette qui fait brûler l'Église. Soyons conscients de cela et confessons humblement notre péché et nos fautes, puis demandons à Dieu qu'il envoie le réveil au travers de nos vies. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour se servir de nous, mais que nous soyons surtout bien disposés. Tandis que nous purifions nos vies, il commencera de se servir de nous. Le réveil, c'est la repentance et l'abandon de notre péché. Après que les charbons ardents de l'autel de Dieu ont été touchés et surtout ont touché les lèvres d'Ésaïe, sachez que sa bouche a été totalement purifié afin qu'il puisse prophétiser au peuple de Dieu un message pur, car son iniquité n'existait plus, elle était enlevée. Ésaïe, chapitre 6, verset 6, jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, Dieu appelle des prédicateurs de l'Évangile qui se tiendront au milieu du feu du réveil, les lèvres embrasées, pour prêcher à un monde moribond. Nous avons eu de grands enseignants qui nous ont appris de grandes vérités sans pour autant avoir apporté le réveil. Le moment est venu où l'Esprit Saint de Dieu appelle des hommes, des femmes à se tenir sur la brèche pour former une barrière protectrice autour du pays. Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 et 31. Nous arrivons soit au réveil, soit à la colère de Dieu. Ce que nous aurons, cela dépend de nous. Si nous sommes prêts à payer le prix, nous aurons le réveil, et nous pouvons l'avoir à l'heure même. Il est vrai, le prix du rejet, du mépris, de la persécution et de la solitude, cela n'est pas facile. Orville Gardner disait avec sagesse: lorsqu'un serviteur de Dieu est déifié, donc adulé, eh bien son message est perdu. Il n'est utile que lorsqu'il est lapidé pour avoir importuné par son appel à la repentance, lorsqu'il a dérangé nos habitudes, brisé nos idoles et détruit nos convenances sacrées. À travers les siècles, les plus grands revivalistes ont toujours été rejetés, ils ont toujours été haïs et persécutés. Certains ont même été mis à mort. Pour beaucoup des grands serviteurs de Dieu, on a pu dire qu'il fut blessé dans la maison de ses amis. Zacharie, chapitre 13, verset 6. Il y aura toujours ceux qui, n'étant pas engagés, seront l'instrument de Satan pour semer division et conflit. Si de grands revivalistes tels que John Wesley, George Whitefield, le docteur Moody et Jonathan Edwards ont souffert la persécution. Pourrons-nous y échapper, je vous le demande? Jonathan Edwards a été persécuté et même renvoyé de sa propre église à Northampton, dans le Massachusetts. À la suite de cela, il a écrit ses meilleurs livres et la souffrance de la persécution et les semblables à la rose. Une rose que vous écrasez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diffuse un parfum céleste. Alléluia. Satan déteste le véritable messager du Saint-Esprit, car il sait à quel point la prédication puissante et ointe fait du tort en son royaume. Et voilà pourquoi le vrai revivaliste, il est la cible du diable. Beaucoup désireraient que Dieu les utilise, mais le Seigneur sait qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Cela peut vous coûter tous vos amis, parfois même votre famille, vos bien-aimés, votre pays, votre sécurité et même votre réputation, voire parfois, hélas, même votre santé. Beaucoup tels que George Whitefield et John Hyde se sont littéralement usés au service de Dieu. Il est l'heure, chers amis, de nous lever et de dire avec Esther, « Si je péris, je périrai. » Esther chapitre 4, verset 16. Ou avec l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas de ma vie. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 24. Et pour moi, l'apôtre Paul a dit, et pour moi, vivre c'est Christ, et mourir c'est même un gain. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de tous ceux qui se soumettront totalement à lui, qui laisseront tout pour lui et qui ne regarderont pas au prix à payer, car ils doivent être prêts à tout pour le servir. Ils se sentiront souvent très seuls, car Dieu ne leur permettra pas de se mêler à la foule ou de faire partie de la bande. Ils n'auront pas de temps pour eux-mêmes et pour des loisirs, ni aller en vacances en se balançant entre deux palmiers au bord de la mer, soit que ce soit à Hawaï ou que ce soit en Tunisie, et encore avec les risques des terroristes qui nous guettent. Il leur viendra sans cesse à l'esprit ces mots, c'est pour les autres. Mais ça, ce n'est pas pour toi. Non, 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 non. Si Dieu vous a appelé à être vraiment comme Jésus, il vous attirera dans une vie crucifiée, oui, une vie d'humilité. Il vous demandera une obéissance telle que vous ne pourrez plus ni suivre les autres, ni vous comparer à d'autres chrétiens, et d'une certaine manière, il semblerait qu'il permette certaines choses à d'autres et qu'à vous, il les défend. D'autres chrétiens et serviteurs de Dieu, ayant l'air très religieux est très utile pour en se mettre en avant, tirer les ficelles ou faire des combines pour atteindre leur but, mais vous ne le pourrez pas. Si cela vous arrivait, eh bien vous essuieriez un tel échec, vous seriez tellement repris par le Seigneur que vous ne pourriez que vous en repentir profondément. D'autres pourront s'enorgueillir, vanter leur travail, leur succès, leurs écrits, mais le Saint-Esprit ne vous le permettra pas, et si vous le faites, il permettra une humiliation telle que vous ne pourrez que vous mépriser, ainsi que toutes vos bonnes œuvres. À d'autres, il sera peut-être permis de faire de l'argent, d'hériter d'un legs, mais il y a de fortes chances que Dieu vous rationne au strict nécessaire, désirant pour vous quelque chose de bien plus précieux que l'or, c'est-à-dire sa dépendance qui lui permettra de pourvoir à tous vos besoins jour après jour. Le Seigneur peut permettre à d'autres d'être honorés et mis en avant, alors qu'il vous cache dans l'obscurité, voulant produire à sa gloire un fruit qui ne pousse que à l'ombre. Il se peut qu'il permette à certains de devenir grands et qu'il vous garde petit. Peut-être que vous resterez encore quelque temps à étudier dans une sombre cuisine. Il peut permettre à d'autres de faire quelque chose pour lui et d'en recevoir tout l'honneur, tout en permettant que vous travaillez dur dans l'ombre sans en voir que le fruit. Il peut même rendre votre travail encore plus précieux en laissant d'autres recevoir l'honneur qui vous était dû. Oui, votre récompense sera alors multipliée, sachez-le, multipliée par 10 lorsque Jésus reviendra. Le Saint-Esprit veillera sur vous avec rigueur et un amour jaloux. Il vous reprendra pour des paroles, pour des sentiments, le temps perdu par exemple, pour lequel d'autres chrétiens ne se sentiraient jamais repris. Acceptez donc le fait que Dieu est souverain et qu'il lui appartient d'agir comme il le veut avec ses enfants. Il ne vous expliquera pas forcément ces nombreuses choses incomprises par votre raisonnement, mais si vous vous donnez à lui à 100%, si vous êtes d'accord pour être son esclave, il vous enveloppera de son amour et fera pleuvoir sur vous des bénédictions toutes particulières. Convenez-en donc une fois pour toutes, vous avez affaire directement au Saint-Esprit et c'est son droit de fermer votre bouche ou vos yeux, de retenir votre main comme il ne le fait pas, semble-t-il, avec d'autres. Et maintenant, rempli comme vous êtes du Dieu vivant, comblé dans votre être intérieur de cette communion et de cette direction du Saint-Esprit, sachez que vous avez découvert le parvis du ciel. Cette mise à part sera incomprise, calomniée, tenue pour suspecte. Il vous faudra donc fixer les yeux continuellement sur Jésus. Sinon, vous deviendrez amer et rempli de pitié de soi-même, ce qui vous perdra ainsi que votre message pour cette génération. Chers amis, les conséquences d'un grand réveil ont une portée tellement vaste qu'il est impossible de se les imaginer. Elles touchent à la fois les lieux et le temps. Elles peuvent faire le tour du monde et toucher plusieurs générations. Le réveil n'a de limite ni dans l'espace, ni dans le temps. Ce furent les écrits de l'Américain Jonathan Edwards et son appel aux chrétiens du monde entier à s'unir dans la prière pour un réveil mondial et un retour au christianisme primitif et apostolique qui ont touché un jeune anglais, William Carey. Et William Carey consacra sa vie à Dieu et devint le père des missions modernes et le premier missionnaire protestant aux Indes. Carey publia de nouveau l'appel d'Edwards qui continua d'avoir une grande portée. Cela a continué d'avoir vraiment un espace toujours plus grand. Et un siècle plus tard, il tomba entre les mains d'un jeune notaire américain. Ses écrits sont donc tombés un jour dans les mains d'un jeune notaire américain qui venait de s'engager pour prêcher l'Évangile. Et il s'appelait Charles Finney, un véritable docteur en théologie. Et Dieu seul sait combien d'autres ont vu leur vie transformée par ce même message. Au début du siècle, lorsque Frank Bartleman a entendu parler du grand réveil au pays de Galles, il a écrit à Evan Roberts, lui demandant de prier que le Saint-Esprit se répande de la même manière en Amérique, et Roberts a répondu en l'encourageant. Voici la lettre qu'il lui a écrite. Pays de Galles, le 14 novembre 1905. Mon cher camarade, que puis-je vous dire afin de vous encourager dans ce terrible combat? Le royaume du malin est assiégé de toutes parts. Oh, ces millions de prières, pas seulement sous forme de paroles, mais ces âmes qui sont atteintes, qui ont atteint carrément le trône blanc, les Gallois ont appris à prier durant cette dernière année. Que le Seigneur vous bénisse par une grande visitation de son Esprit Saint. Ici, il semblerait qu'il plane au-dessus de nos assemblées, attendant que les cœurs s'ouvrent. Samedi dernier, nous avons été puissamment visités par le Saint-Esprit après que nous ayons compris ce que veut dire l'adoration. Premièrement, cela veut dire donner à Dieu au lieu de recevoir. Deuxièmement, ça veut dire plaire à Dieu plutôt que de nous faire plaisir à nous-mêmes. Nous avons donc contemplé Dieu en oubliant l'ennemi et ne craignons plus les hommes. Nous avons prié et l'Esprit Saint est descendu. Je prie que Dieu entende votre prière, qu'il fortifie votre foi et qu'il sauve la Californie. Votre frère dans le combat, Evan Roberts. Nous savons tous, chers amis, comment les étincelles du feu de la Pentecôte ont volé au-dessus de l'océan pour atterrir sur Azusa Street. Et ce fut une double portion, car non seulement ce réveil a été très puissant, apportant une grande conviction de péché, mais il renouvela les dons spirituels et le Seigneur travaillait avec eux par des prodiges et des miracles, cela à Azusa Street. On venait du monde entier. On y était embrasé par les flammes de la Pentecôte et cela a été connu de tous. Le réveil appelle le réveil. Alors que les cœurs retrouvent leur premier amour pour le Seigneur, l'Église sort de sa somnolence. Il communique le fardeau des âmes, la compassion pour ceux qui souffrent et la puissance pour agir en conséquence. Je jette une bouée de sauvetage aux perdus qui sont emportés par le courant du péché. Il donne autorité sur les princes démoniaques et il lie l'homme fort pour libérer les captifs. Les vies sont transformées, les familles sont restaurées, les relations sont guéries, les églises sont remplies, les lieux de péché sont vidés, l'argent qui est volé par Satan au moyen du jeu, du crime, de l'alcool, de la drogue, du sexe, du tabac et toute autre chose de gâchis se trouve canalisé vers le royaume de Dieu, l'aidant ainsi à grandir et à s'étendre à travers le monde. Le réveil communique l'humilité, communique la reconnaissance, le courage, l'engagement, la hardiesse et le zèle, la motivation, afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire avec efficacité. Le réveil fait que les hommes diminuent et que Dieu puisse, lui, croître. Il réduit le crime. Dieu vide les prisons par l'Esprit Saint, par la repentance. Il diminue la nécessité de la police, des militaires et des armes. Il apporte miracles, signes et prodiges et révèle au monde la gloire de Dieu. Chers amis, nous sommes très loin de la société d'autrefois. Il ne faut pas rêver. Ceux qui ont 60 ans et plus se rappellent certainement qu'il y a 40 ans, beaucoup de choses étaient totalement différentes. Aujourd'hui, le crime a augmenté. Les jeux d'argent sont devenus légaux, permis. Et le meurtre est commis légalement dans nos meilleurs hôpitaux par des médecins renommés. L'exhibitionnisme, la perversion, la pédophilie, la sodomie, la prostitution et l'utilisation de drogues illégales sont monnaie courante dans notre société actuelle. Un journal soi-disant familial est offert gratuitement chaque semaine dans les boîtes aux lettres. Or, ce journal possède maintenant 3 pages de photographies en couleur de jeunes femmes et de travestis qui, pour un peu d'argent, offrent toutes ces abominations. Il n'est donc pas possible de légiférer avec la sainteté, avec la piété, ou la justice. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aucun chef de gouvernement ne pourra changer le cœur mauvais de l'homme, mais le réveil, lui, peut le faire. Nous avons besoin du réveil. S'il peut transformer des adultères en maris fidèles, ça existe. Il peut transformer des blasphémateurs en prédicateurs de l'évangile. Il peut, par exemple, transformer des persécuteurs tels que Saul de Tarse en missionnaires motivés et zélés. Alors Dieu, qui est toujours le même, peut le faire encore aujourd'hui. Il est beaucoup plus grand que le problème, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains chapitre 5, verset 20. Dieu nous enverra un réveil correspondant à nos besoins, même s'il doit être accompli, oui, ou accompagné de grands jugements, comme cela était le cas au temps de l'Église primitive. Lorsque Dieu a frappé Ananias et Saphira à cause de leur péché contre le Saint-Esprit, une grande crainte s'est emparée de tous ceux qui étaient dans l'Église, ainsi que de ceux qui en ont entendu parler, et beaucoup de miracles et de prodiges se sont faits parmi le peuple par les mains des apôtres. Ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Le peuple les louait hautement et des croyants d'autant plus nombreux se sont joints au Seigneur, une multitude de tant d'hommes que de femmes, de sorte qu'on a apporté les infirmes dehors, dans les rues, et qu'on les mettait sur des petits lits et sur des couchettes, afin, quand l'apôtre Pierre viendrait, au moins que son ombre puisse passer sur quelques-uns d'entre eux, et la multitude aussi des villes d'alentour se sont assemblés à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris. Actes des apôtres, noté chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 16. En voyant, on peut dire, le jugement. Quand Dieu a envoyé le jugement, sachez que Dieu, il gardait le réveil ainsi pur. Je crois que Dieu purifie ainsi son temple et que cela a déjà commencé maintenant. Il a averti que le jugement commencerait dans sa maison et que même les anciens et les diacres ne seraient pas épargnés. Notez Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6 et notez également la première épître de Pierre chapitre 4, verset 17. Jésus nettoya le temple à deux reprises. L'une au début de son ministère, selon Saint Jean, chapitre 2, verset 13 à 17, et l'autre pendant la dernière semaine de sa vie. La première fois, personne ne savait qui il était. Il venait comme étranger. Mais la deuxième fois, tous l'ont reconnu. Et la foule s'est écriée, « Voici Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Cette fois-là, il a eu aussi de grands miracles. Il y a eu de grands miracles. Car voyez-vous, les aveugles et les boiteux sont venus vers Jésus et ils furent tous guéris. Et ils ont vu ainsi des grandes choses, selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 14 et 15. À la suite de cela, les responsables religieux étaient furieux et ont voulu évidemment le tuer. C'est pas la première fois. Saint Marc, chapitre 11, verset 18. Ils avaient peur de lui, car tout le peuple était émerveillé de son enseignement. De la même manière que Jésus a purifié l'Église primitive, il agira puissamment une fois encore pour purifier le temple. Il agira de la même manière. Premièrement, il mettra dehors tous ceux qui tirent profit du peuple de Dieu. Deuxièmement, il renversera les tables des changeurs, de grands ministères feront faillite et de grands prédicateurs se trouveront sur la paille. Troisièmement, il libérera les siens de la séduction des faux ministères en ouvrant des cages pour permettre leur envol. Même Jimmy Jones avait dans son église des âmes pures lorsqu'il a assassiné plus de 900 disciples en Guyane. Dieu libérera des gens de fausses doctrines et de la piété artificielle qui existe aujourd'hui dans beaucoup plus d'églises et d'organisations que vous puissiez le penser. Quatrièmement, il transformera les programmes humains en programmes de Dieu, suscitant de nouveau la prière, le jeûne, les nuits de prière et la véritable intercession de son Église authentique. Cinquièmement, ceux qui sont dans le besoin et les malades s'approcheront de lui et il les guérira, les restaurera et fera des prodiges. Et sixièmement, les faux leaders religieux seront furieux contre lui. Si vous devez faire partie de ce dernier réveil, alors sachez que tout en ayant part à la gloire, vous aurez aussi la persécution et la souffrance. Les ennemis de Christ se déchaîneront contre vous comme ils se sont déchaînés contre lui quand il a nettoyé le temple. Je crois que la persécution sera bientôt le lot du véritable chrétien. Mais avec la persécution, il y aura également le réveil. Il n'est pas possible de séparer les deux. Par la persécution, Dieu garde les siens dans l'humilité. La persécution engendre une beaucoup plus grande faim de Dieu, laquelle faim engendre un plus grand réveil. C'est comme un peu l'huile sur le feu. Plus la persécution est grande, plus le réveil sera grand. C'est ce qui se passa dans l'Église primitive et cela se passera encore. Or, en ce temps-là, il y a eu une grande persécution, oh oui, une très grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous ont été dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Ceux donc qui avaient été dispersés sont allés ça et là pour annoncer la sainte parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, leur prêcha le Christ. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 et versets 4 à 5. Le Christ Jésus est lui seul est le sujet du réveil. L'apôtre Paul a dit, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Aujourd'hui, nous avons remplacé la prédication de Christ par l'enseignement et par la prédication de toutes sortes de causes ou de choses allant de la prospérité à l'art de faire grandir nos églises, cela inconscient que nous sommes de manquer le but. Car l'art de faire grandir nos églises, c'est une chose qui équivaut souvent à la pêche au bocal d'autres églises, croyez-le ou pas. N'importe qui ayant un bon programme qui est attrayant pourra forcément attirer le monde. Nous nous vantons de nos édifices grandioses ayant coûté des fortunes, alors que nous aurions besoin de simples tabernacles pouvant accueillir les fidèles d'aujourd'hui, avec la possibilité d'être agrandis pour recevoir tous ceux qui seront sauvés par le réveil. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui fait grandir, et non pas la séduction de programmes divertissants. Si nous prêchons Christ, nous aurons le réveil. C'est ce qui se passa lorsque Philippe a prêché Christ en Samarie, et c'est ce qui se passera lorsque nous-mêmes, on peut dire que nous-mêmes allons prêcher Jésus-Christ, car il a dit, « Moi, si je suis élevé de la terre, eh bien j'attirerai tous les hommes à moi. » Saint Jean, chapitre 12, verset 32. Voyez-vous, non seulement le réveil nous mettra à cœur Jérusalem et la Samarie, mais aussi les nations. Tous les véritables réveils ont suscité des vocations pour aller vers les nations du monde. Et de la même manière que William Carey a reçu un fardeau pour les perdus des Indes en lisant simplement les écrits de Jonathan Edwards, nous aussi aujourd'hui, nous sommes poussés par le Saint-Esprit à aller prêcher l'Évangile lorsque nous sommes mis en contact avec ceux dont les cœurs sont remplis de l'Esprit du réveil. Ne faites pas la sourde oreille et ne faites pas semblant d'être aveugle, car les musulmans sont en train de squatter les églises chrétiennes abandonnées pour aller y prier par masse. Vous pouvez les photographier en ayant la tête par terre et le derrière en l'air. C'est une image qui devrait nous faire réfléchir. Oui, les églises chrétiennes s'abandonnent tous les jours de plus en plus pour être remplacées par les musulmans et les islamistes de tout poil. Croyez-moi, c'est sérieux. Nous vivons la dernière phase de cette humanité. Vous pouvez le croire ou pas, mais c'est vrai. Chers amis, pour terminer cette étude, sachez que cette vision s'accroîtra et Dieu seul sait jusqu'où il ira, quelle profondeur elle atteindra dans les cœurs et quelles seront les transformations qui s'opéreront ici, d'ici le retour de Jésus. Mais, quelle que soit l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous, et également pour nous, ne cessez jamais de prier, d'intercéder pour ceux autour de vous. Et j'ajoute, pour le peuple d'Israël, pour que l'Esprit Saint leur ouvre les yeux et leur fasse reconnaître le Messie, leur Messie, Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble maintenant. Chers amis, j'aimerais que cette prière puisse concerner chacun d'entre vous. Et pour cela, j'aimerais vous demander, si vous avez un appareil qui permet d'écouter un CD, de réécouter cette prière. Peut-être même, si vous en avez la possibilité, de la réécrire et de la prier vous-même pour vous. Mais vous pouvez aussi maintenant la répéter après moi, car j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre cette prière pour vous qui écoutez ce message, et que ainsi vous puissiez répéter cette prière après moi. Prions donc. Mon Dieu et mon Père céleste, tu es tout pour moi. Ton saint nom est mon soutien. Je te révère, ô Dieu, persuadé que tu es le salut de tous ceux qui souffrent et que tu es le chemin de toute espérance. Je t'aime, Seigneur, et j'implore ta miséricorde pour que tu viennes à mon secours par ton Fils bien-aimé, car je souffre, comme tu le vois, je souffre de l'abandon immérité dans lequel je suis plongé. Je te demande, ô mon Dieu, de faire cesser cet état, de me protéger et de permettre de reconquérir l'affection de celles et de ceux qui m'ont laissé de côté. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée. Le et la maladie se rétablit. Le malade ou celle qui est malade, que ce soit un homme ou une femme, peut se rétablir car le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour, que tu accueilles mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de maux reprenne la santé et que mon cœur meurtri par les épreuves et les chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes. Je suis attentif à tes commandements. Oh oui, mon Dieu, je t'invoque avec amour. Pardonne toutes mes erreurs et mes fautes. Exauce ma prière. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sachez que si vous avez Internet, je ne le possède pas, mais je travaille pour Internet tous les jours. Il y a plus de 3000 CD intéressants. Il y a tout ce que vous avez besoin de connaître, tous les topics de la Sainte Parole de Dieu y sont représentés. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et à demain matin, Dieu voulant, au revoir, mes très chers amis.